Bonsoir, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast 100% Fantasy NFL. Alexandre, pour vous servir. Et oui, Marc n'est pas là. Marc a claqué la porte, il a quitté le camp des previews pour renégocier son contrat, c'est très à l'heure actuelle. Mais il espère avoir le même contrat que son idole, Saquon Barkley, alors qu'on sait très bien qu'à la fin, il n'aura qu'un sneakers et en incentive, un paquet de cartes Pokémon. La semaine dernière, on a abordé les previews des deux divisions Ouest. Ce soir, on va aborder les previews des divisions Nord. Et ce, pour m'accompagner, deux personnes. Luc. Comment tu veux qu'on t'appelle globalement. Et Aptine.
Bonsoir, bonjour.
Bonsoir tout le monde.
Moi, je pensais que quand tu as parlé de Marc, il avait signé, je pensais qu'il avait signé à Al Hilal comme des personnes qui partaient. Donc, j'étais
l'Arabie Saoudite.
Ce bon vieux Marc en Arabie Saoudite, là, je kiffe pas ça, quoi.
C'est vrai que j'ai entendu dire qu'ils sont partis à Londres pour essayer de négocier avec lui, pour l'entendre à la raison, comme avec Mbappé, mais non.
Ah, il est dur à la négociation. Hein.
À la première reprise de volée, ils ont dit « Ouais, vas-y, on va repartir, merci pour toi, Marc. »
Il est meilleur au golf, à ce qu'il paraît.
Avant d'aborder les previews, messieurs, je voulais juste faire un petit rappel concernant les dernières news, en négociation de contrat, les différentes blessures, différents joueurs. Allez consulter notre page Twitter @fantasyballersf ou sur les différents réseaux sociaux. Tout est mis à jour. Vous pouvez même revoir les previews, les différentes les différentes slides que l'on a présenté avec tous les joueurs à suivre pour les previews. Et donc là, on va faire la même chose avec NFC Nord ce soir. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien.
Je vais vous partager mon écran pour un PowerPoint de qualité de slides.
Ouais, des formations professionnelles. On va commencer. Alors, vraiment, le hasard total.
Le hasard. Mais complètement le hasard.
Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Donc, pour ceux qui nous écoutent, donc on affiche différentes slides avec les différents joueurs à suivre. Et la première slide, première insertion, c'est l'équipe des Green Bay Packers. Green Bay Packers, donc, reconstruction.
Donc, parce que c'est des personnes. C'est des personnes qui les écoutent que la
radio.
Il faut que tu prennes que.
Non, mais. Je ne vais pas mettre en avant. Aptine, je suis humble.
Ce n'est pas une question d'avant, mais là, on sait comment. Là, c'est que le cœur qui va parler. Donc,
ouais. Non, mais vous allez parler avec moi. Donc, je disais, Green Bay Packers, je ne sais pas si on peut dire construction ou reconstruction, un peu des deux. Aaron Rodgers donc, est parti. Il nous l'a bien mise à l'envers. Vu ce qui s'est passé notamment dans son extension de contrat chez Jets. Et donc là, sous le casque, nous avons maintenant Jordan Love. Et Jordan Love, il est entouré d'une équipe à la fois très jeune et certains membres assez expérimentés. Concernant les Packers, vous, on va commencer par Luc, s'il y a une personne que vous ciblez en premier en fantasy, que tu cibles à la fois, on va aborder hein, aussi bien dynastie que redraft parce qu'on est un peu aussi en période où on va aborder des drafts dans des ligues où c'est en redraft. Quel joueur tu cibles en premier?
Aaron Jones,
et pourquoi?
Pour moi, c'est la valeur, ça va être la valeur sûre. Niveau receveur, il y a du monde, mais il n'y a pas vraiment de numéro 1 qui a réussi à se développer, à mon sens. Alors que Aaron Jones, on sait que c'est une valeur relativement sûre. Après, il y a AJ Dillon aussi derrière qui pousse. Mais je pense que Jones aura encore le lead cette année.
Donc, vous n'avez pas peur que Dillon, justement, vu sa mauvaise performance de l'année dernière, enfin, c'est pas mauvaise, mais en tout cas moins bonne qu'on ce qu'on attendait en termes de performance, en termes de chiffres l'année dernière, avec le fait que ce soit plus Rodgers à la passe, mais plutôt Jordan Love, vous dites pas, tiens, on va peut-être plus courir et donc faire plus travailler AJ Dillon et donc moins Aaron Jones.
Après, Jones, je pense qu'il sera aussi intéressant à la passe, hein, donc non, je pense qu'il continuera à scorer en RB1.
Ok, Aptin.
Non, je suis globalement d'accord avec Lucho, même si je m'attends à quand même à une bien meilleure saison que AJ Dillon. Après, je pense qu'il est tellement pas entouré aujourd'hui Jordan Love que je pense que tout le monde va en pâtir. Et quand tu as dit quel joueur vous choisissez, franchement, c'est super difficile de répondre parce que moi, je pense que pour tous les joueurs, quand tu vas arriver pendant ta draft, que ce soit redraft ou même dynasty, je ne pense pas que je me dirigerai vers les Packers parce que je n'arrive pas à avoir plusieurs années, des années d'affilée où il va se passer beaucoup de choses offensivement.
Tu entends quoi par mal entouré ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est trop jeune, c'est pas assez expérimenté, c'est ça que tu veux dire ?
C'est exactement ça. Et encore, au final, je trouvais qu'Aaron Rodgers pouvait apporter quelque chose pour essayer de réguler un peu le différent casting qu'il y avait. Là, je trouve que Jordan Love ne pourra pas vraiment tirer partie de tous les receveurs qu'il y a, même s'il y a quand même pas mal de départs. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé des départs avec Lazare et Rob, mais je me dis quand même que ça reste relativement light pour en faire une équipe qui devient intéressante, et je pense qu'on en a beaucoup en North, que ce soit NFC ou AFC, et je pense que c'est quelque chose qui reste de revenir même avec d'autres équipes. Après, je rejoins totalement Lucho pour dire que c'est la valeur sûre pour moi, ça reste Aaron Rodgers qui va faire et de la passe et de la course. Aaron Jones passe plus course, qui va faire la personne, qui va faire le joueur le plus intéressant de l'équipe.
Après, la grosse inconnue, tu nous confirmeras peut-être, Alex, mais c'est surtout qu'est-ce que ça va donner avec Jordan Love.
C'est lui qui va tout décider. Hein.
Le truc, c'est que c'est comme je le dis à chaque fois, c'est que c'est une inconnue pour tout le monde. Jordan Love, on a pas derrière, on a aucun historique. On a un ou deux matchs, mais on sait trop rien. Hein. Maintenant, c'est de l'entraînement. Il y a une hype sur Dobbs. On voit l'entraînement comme quoi. Après, il y a toujours les propagandes avec les vidéos sur les entraînements. Mais en attendant, Dobbs, à l'heure actuelle, il y a une hype. La connexion a l'air de bien se passer. Donc, moi, j'avais dit l'année dernière, je me rappelle que Marc m'avait posé la question qui allait être le WR, parce que c'était les deux receveurs qui avaient été draftés en même temps, Dobbs et Watson. Quel receveur allait sortir du lot ? Pour moi, c'était Dobbs, ce qui a été le cas dès le départ. Parce que en même temps, Watson, sa capacité, c'est le jeu en profondeur. Et jeu en profondeur, Aaron Rodgers, là. Jordan Love, on ne sait pas trop, on ne l'a pas assez vu. Donc, c'est pour ça que je me dis que Dobbs, comme il joue plutôt dans le slot, en tout cas sur les tracés courts, c'est peut-être la bonne pioche aussi à avoir. Mais bon, tous ces joueurs, c'est on va dire, des tours tardifs au niveau de vos drafts.
Ouais. Surtout Jordan Love en redraft, c'est compliqué de le prendre en tant que QB1, ça, clairement. Après, c'est en tant que QB2, en tant que remplaçant. En superflex, faut peut-être l'avoir quand même parce que ça peut être intéressant. Maintenant, sa valeur, elle est pas très très haute non plus. Quoi.
On va passer maintenant à l'équipe des Bears, de mémoire, c'est ça. L'équipe des Bears, bon, là, on a toujours l'éternel débat. Où est-ce qu'on positionne Justin Fields ? Est-ce que pour vous, Justin Fields va faire une grosse saison ? Est-ce qu'elle va être à l'attente de tous par rapport à sa double compétence ? Est-ce qu'il va réussir à se développer avec un corps de receveur qui est un peu plus étoffé ? Aptin, tu en penses quoi ?
Moi, je vais plutôt être positif sur le cas de Justin Fields. Excusez-moi. Moi, je vais être positif parce que
c'est Justin Fields qui veut parler.
Tu t'es mute, Aptin.
Oui, parce que j'étais en train de dire des noms d'oiseaux. Non, du coup, je disais, moi, je vais être plutôt positif sur ce qui se passe, même si, en fait, pour moi, le vrai problème des Bears, c'est pas forcément l'effectif, mais le coaching staff. Je n'ai jamais vraiment adhéré au coaching staff. Et en termes de points fantasy, je pense que Fields va produire moins que l'année. Enfin, en moyenne, je crois que j'avais regardé, il était à peu près à 20. Je pense qu'en termes de moyenne, il sera à peu près équivalent, mais qu'il ne va pas faire la deuxième partie de saison qu'il a faite. Et parce que beaucoup de personnes l'attendent, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de qu'en off-season ça regarde beaucoup de vidéos et toutes les défenses vont s'ajuster et c'est peut-être pour ça qu'ils ont dès maintenant ajouté beaucoup de d'armes autour de lui, ouais, et surtout pour peut-être on va dire un peu varier le jeu et plus du tout rester sur Justin Fields dépendant. Après, en termes de jeu, je pense que ce ne sera pas beau à voir parce que même moi, les receveurs, enfin Claypool, je ne le compte pas. Je crois même qu'il a commencé sur
la piste. Pour rappel, on a les venues, les arrivées les plus importantes. On a quand même DJ Moore qui n'est quand même pas l'épicier du coin en termes de receveur, parce qu'on a vu ce qu'il arrivait à obtenir comme résultat au Carolina Panthers l'année dernière, avec le carrousel de quarterback, il arrive toujours à produire. Donc là, on a quand même Justin Fields, qui est quand même un élément qui a toujours été quand même assez costaud même mentalement, pour pouvoir réussir. On a après donc Robert Tonyan, qui était venu aussi, qui est arrivé aussi des Packers en tant que tight end, le running back Dante Foreman. Puis après, ils ont drafté quelques personnes, et donc Chase Claypool. Et donc, du coup, dans le corps de receveur, entre DJ Moore, Darnell Mooney, Chase Claypool, et puis je mets dedans aussi le tight end Cole Kmet, parce que voilà.
Toi,
Lucho, tu par rapport à Justin Fields, c'est comme disait Aptin, dans cette évolution-là, cette transition-là de jeu, parce qu'il va moins courir, faire moins de points en fantasy. Du coup, tu vois s'organiser comment
Après, je rejoins quand même Aptin sur ce qu'il disait. C'est vrai qu'il va être beaucoup plus sollicité, je pense, à la passe, parce que vu le nombre de courses qu'il a eu l'an dernier, il peut pas refaire une année comme ça. Je pense pas que ce soit possible, parce qu'il va être attendu. Il va devoir beaucoup plus miser sur la passe, et ils l'ont vraiment bien entouré avec l'arrivée de DJ Moore, comme tu le disais. Je pense que ce duo-là, il va être très intéressant au niveau fantasy, parce que Moore va être... je pense qu'il aura largement le lead en target, ça c'est sûr, et on sait le talent qu'il a, et je pense que Moore, il va être vraiment très très intéressant dans les WR à aller chercher. Mais après, Kmet, il faut pas l'oublier non plus dans les tight ends. On sait que c'est un poste qui est relativement compliqué en fantasy. Et je pense que lui, il peut avoir un profil intéressant, surtout en red zone.
Moi, j'ai juste un bémol sur la partie de Moore. On sait que bon, il n'y a pas vraiment de receveur 1 dans cette équipe. On pensait que Mooney avait les épaules pour passer receveur 1, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière.
Mais il est blessé.
Il a bu ouais, en pompier.
Il est blessé. Ouais. Il a une fracture au niveau de la cheville, je crois, Darnell Mooney, de mémoire. Non, c'est pas lui. J'ai un trou de mémoire maintenant.
Au niveau de la cheville.
C'est ça. Oui, ouais, il a eu la cheville cassée. Hein. C'est pour ça qu'il a été absent. Il a fait que quelques matchs l'année dernière.
Ouais, il a fait la moitié de la saison, quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais, même pas. Mais la cheville cassée, donc.
Après le problème, si on parle que fantasy, le problème ça va être au niveau des running backs. On ne sait pas trop qui aura le lead. Il y a le petit rookie aussi, Roshan Johnson, qu'il faut garder à l'œil, parce que il va être intéressant, je pense, dans ce backfield là. Donc s'il y a vraiment un sleeper à avoir, je pense que ça va être le petit Roshan Johnson à surveiller. Ouais.
Alors, le petit, ouais, t'es mignon. Ouais, quand tu regardes le gabarit du bonhomme, moi, je fais sa cuisse. Mon corps entier fait sa cuisse. Non, quand même pas, c'est quand même pas J. Dillon, mais enfin, bon, c'est un beau gabarit quand même. Oui, tu l'as très bien mentionné, les running backs, c'est un pot pourri slash panier de crabe. En fait, ils ont tous des ADP très, très proches. On est quoi sur 50, 35, 45, je crois. Enfin, ils tournent tous un peu, avec en plus des runs. Quand vous draftez, vous allez voir des joueurs qui sont un peu identiques en plus à ce type de
joueur. Ouais, bah, c'est surtout ça. Ouais.
Il y a une sorte de no man's land avec tout ça, et qui fait que du coup, on se dit lequel je prends dans tout ça, lequel va l'idée, parce que maintenant que Montgomery est parti, qui va être leader, parce que Khalil Herbert, c'était quand même le petit gabarit parfait en vivacité, et on a certains gabarits quand même, mais et pour moi, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Roshan Johnson, qui était un super running back 2 d'ailleurs, Bijan Robinson, un super running back au Texas, à Longhorns. C'est vrai que là, pour moi, c'est la petite pioche à prendre. Si on ne vous l'a pas encore pris dans les tours assez tard, c'est peut-être la bonne pioche à faire.
Là, tu vois, dans l'ADP, Foreman, il est RB47 et Herbert, il est RB39.
C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai à peu près les mêmes.
C'est relativement prochain.
Mooney a repris l'entraînement. Hein.
Oui, oui, non, attention, il a été blessé. Donc là ils ont fait, il a fait des entraînements très légers pour bien le préserver en termes de cheville. Mais il le préserve énormément, parce que cheville cassée aussi vite. Hein. Il est très jeune, hein, dans les Mooney. Il a que 25 ans. Et toi qui le connais bien, Chase Claypool, bon, il a dit qu'en gros, il sait très bien qu'il a l'épée de Damoclès sur sa tête, c'est l'année ou jamais.
Ça sera jamais, si tu veux, si c'est la question.
En parlant de petites paroles, donc Claypool a dit ça, mais moi j'ai entendu une autre parole qui m'a fait assez rire. Pourtant, ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est la Danielle Tomlinson qui a fait un rapprochement de Justin Fields et Trevor Lawrence. Il a dit que comment Trevor Lawrence ne pouvait pas courir aussi bien que Justin Fields, mais Justin Fields pouvait aussi bien lancer le ballon que Trevor Lawrence. Donc bon.
Il y a beaucoup de paroles sur Fields en ce moment qui sortent.
C'est la Danielle Tomlinson, je veux dire.
C'est un peu du tirambis, quoi.
Et pourtant, Justin Fields a fait Ohio State et Tomlinson a fait TCU. Donc on ne peut même pas dire qu'ils sont la même université qu'une émulation. Non, non, pas du tout.
Par contre, j'avais pas vu le move. Moi, j'avais juste pas vu le move de Robin Tonyan. En gros, il était un peu passé à travers le filet. Surtout que la news récente, c'était.
Il est passé à travers beaucoup de choses.
Non, parce qu'en fait, surtout avec le contrat qu'ils viennent de donner à Cole Kmet, c'est pour ça que quand je le lis là tout de suite, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il avait été pris, mais pas sûr de.
Tu fais bien mentionné, il prend 50 millions, dont 35 garanties Kmet pour 4 ans. Bien joué. Ce qui fait que du coup. Quand tu es running back, tu es vraiment dégoûté de faire ce poste parce que tu vois un tight end choper 50 millions avec 35 garanties, tu te dis mince, j'ai un peu raté ma voix. Quoi. Mais oui, Robert Tonyan, on verra bien ce que ça donne. Hein. Il était sur courant alternatif chez nous, je ne sais pas trop si ça passait bien ou pas. Enfin, bref. Suivant, nous avons les Minnesota Vikings. Oh. La belle couleur violette. Bon, alors. Là, on a un sujet qui est toujours un peu comme les Bears. Parce que, bon, Kirk Cousins, en gros, on est tous d'accord que c'est du mid-range quarterback. Bon à prendre, quel que soit le type de format de ligue. On va dire 15e, entre 15 et 20 en fonction des ADP. Ouais. On est d'accord ? Vous êtes d'accord ou pas ? Dites-moi
non. Moi, je suis un peu plus que mid. Enfin, moi, je vais plus haut, dans mes. Ouais, parce que moi, je l'ai dans mes équipes et j'ai été. Enfin, qu'il va donner. Ouais, c'est régulier. Il est bien entouré. Et vu que maintenant, ils ont perdu Cook, enfin, moi, je suis encore un peu plus haut que
encore plus amoureux depuis que tu l'as vu sur Netflix.
Ouais. Je pense que la hype Netflix.
Alors, non, moi, justement, en fait, j'ai juste en train de me dire que plus je regardais, plus je trouvais qu'il faisait très robot dans sa vie.
Ouais.
Pas trop de sentiments, je me disais, ah ouais, tiens, en fait, il est pour moi, je l'ai plus labellé en tant que chelou, quoi, de mon côté. Après, tant qu'il joue bien, c'est pas très grave, mais je trouve que d'année en année, en fait, il joue de mieux en mieux. Et je trouve que là, il a vraiment. Je pense qu'il s'entend de mieux en mieux avec son coordinateur offensif, que là, Justin Jefferson est clairement, enfin, on est aujourd'hui le meilleur receveur de la NFL et qu'il apprend encore, et je me dis vraiment qu'il peut devenir que meilleur.
Ok. Surtout, ce que je voulais aborder avec vous sur les Vikings, c'est un peu le. Alors, c'est deux sujets. Il y a le sujet running back avec Alexander Mattison, qui est en fait tout seul, quelque part. Parce que même si Ty Chandler a été drafté, je crois que c'est quoi, l'année dernière ? 2 ans, enfin, trop même. Ouais. Mais Mattison, en fait, je trouve très bas en termes d'ADP. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est trop bas ?
Après, on ne sait pas c'est quoi son ADP.
Ah bah, je vais vous dire. Donc, son ADP en dynastie, c'est 29. Et en redraft, c'est 22.
Non, bah, je ne vois pas. Moi, je vois pas. Tu as quoi ?
J'ai une inquiétude sur lui. Je ne sais pas.
Laquelle, à chaque fois qu'il a joué, il a explosé les scores.
Voilà, donc c'est trop bas.
Moi, je suis d'accord avec toi. Ah non, moi, je le prends clairement plus haut, moi.
Ah, on est d'accord, c'est ça. J'ai cru que tu me disais non.
Non. Je sens qu'on est deux contre un, mais j'ai.
Il a 25 ans, il a déjà 4 ans de ligue derrière lui. Donc, déjà, je veux dire, il connaît plus que bien le cahier de jeu, comment ça se passe. Il a eu Dalvin Cook devant lui. Il a été, en étant juste remplaçant. Par goutte à goutte, il était RB50 l'année dernière, en faisant juste des rentrées par-ci par-là. Et à chaque fois, c'est quand Dalvin Cook n'allait pas, et à chaque fois, il plantait minimum 15 points, entre 15 et 20 points. Donc c'est pour ça. Personnellement, je trouve que. Vous vous rendez compte qu'en termes d'ADP, il est dans le même range que Akane, le rookie de Miami Dolphins, que Pacheco. Et que James Cook, justement, son frère, le frère, est pas loin de AJ Dillon. Tu vois, donc c'est pour ça.
Moi qui pensais qu'il n'y avait pas de débat, Lucho, là, j'attends juste ce que tu vas nous dire.
Non, mais dans le sens, je suis relativement d'accord avec vous, ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que niveau RB22, il vaut plus que ça, ça c'est clair. Mais après, j'ai une interrogation, comme tu disais, il a joué des matchs par-ci, par-là. Il n'a pas joué en continu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que sur une saison, là, il va avoir le lead. Sur une saison, est-ce qu'il va être productif autant chaque match? Je ne suis pas certain.
Oui, ben moi, ça, après, là, tu enfonces des portes ouvertes. C'est le truc, c'est évidemment, s'il n'est pas sur le terrain, on ne peut pas savoir. Jordan Love, c'est pareil, il n'est pas sur le terrain.
Il va
faire 10 milliards dans l'année.
Tu vois, est-ce qu'il faut le prendre plus haut? Oui, clairement, il faut le prendre.
Dalvin Cook était running back numéro 10 l'année dernière, en moyenne. Donc, bon. Ça prouve que le nombre de points à combler.
Je dis au max, tu le prends 11 parce que voilà, il était ouvert.
C'est ça. Sinon, après l'autre sujet, assez rapidement parce que on mène pas les enquêtes, on sait pas trop comment ça se passe. Comment Bibip et le Coyote, alors surtout le Bibip, c'est Jordan Addison qui va plus vite que tout le monde. On fait quoi avec lui? Il vous met un coup dans l'aile dans sa draft, vous en fichez. Et comment vous le voyez par rapport à KJ Osborne?
Lucho, tu veux y aller? En tout cas, moi, je vais peut-être commencer par dire qu'au début, je me suis dit, c'est vraiment le rookie imbécile qui se fait cramer dans son Urus au bout de un mois. Mais après, j'ai lu que c'était parce qu'il a emmené son chien au vétérinaire et là, il est excusé. C'est pour ça qu'il n'y a plus du start. Tout le monde a dit « Ah, mais si c'était le chien, c'est bon. » Et je suis totalement d'accord avec ça. Donc, je ne te connais pas, Jordan Addison, mais je t'aime beaucoup déjà.
Je savais que tu allais sortir ça.
Il n'y avait rien de fantasy. Voilà. Lucho, je te laisse la parole.
Je savais que tu allais dire ça.
Alors, Aptin a un chien.
J'ai vu l'histoire du chien, j'ai dit « Aptin, il va être d'accord avec ça.
» Ok, bon.
Non, après, en termes peut-être plus sérieusement, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et surtout, on sait que KJ Osborne, c'est un bon WR2 dans une équipe qui a TJ Hockenson. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'oublie beaucoup, dont moi. Quand j'ai relu, je me dis, c'est vrai qu'il est là aussi, lui. Donc, il y a quand même énormément de bouche à nourrir, même si je pense que c'est une équipe qui va être forte offensivement. Elle sera quand même basée sur la passe, mais je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse être régulier sur les deux premières années de sa carrière, vraiment.
Okay. Mais non, mais moi, c'était surtout son capital draft au niveau de Jordan Addison.
Après, quand tu vois, Addison, il est projeté en WR39.
Ouais, il est
dans
haut.
Dans les alentours, il y a
Johnson. Il est haut pour un rookie. Hein.
Il y a Mike Evans. Tu as Smith and Jigba. T'as Pickens, t'as Burks, je sais pas, moi à cet ADP là je prends plutôt les autres que lui, hein, clairement. Après
alors pour les premiers que t'as cités, oui, mais les derniers que t'as cités, non. C'est
comme... Ah, t'as Burks quand même, enfin bon, là Burks avec l'arrivée de Dawkins, ça va baisser.
Il est dans le même range, Addison, il est dans le même range que Jerry Jeudy, qui était receveur des Niners, hein, à l'heure actuelle, globalement. Donc,
sincèrement, je préfère mes Niners à Addison.
Et de toute façon, on ne peut pas oublier TJ Hockenson, statistiquement, en gros, c'est le meilleur tight end derrière les deux plus gros, c'est-à-dire Travis Kelce et Mark Andrews des Ravens, dont on va parler tout à l'heure. Ok, on a fait le tour. Ça vous va?
Très bien.
Vous voulez dire quelque chose? Ok.
C'est marrant parce qu'il y a quand même le meilleur receveur de la NFL, on ne parle pas de lui, mais c'est quand
même parce que si tu veux. On a rien à dire, quoi. C'est le meilleur.
C'est un rating de 99 sur Madden. On n'en parle plus.
En redraft, tu vas le chercher en first pick.
Quand tu montes une ligue, une équipe, en gros, c'est ou Jamar Chase ou JJ Person.
C'est ça. Bon.
Après ça, on va. Les Detroit Lions. Alors, les Detroit Lions, toujours le casse-tête au niveau des postes. Et de savoir, toujours avec l'arrivée un peu souvent d'un rookie qui peut un peu remettre un peu tout en question. On va faire dans l'ordre à la Higer, le quarterback Jared Goff. Pour vous, Jared Goff, one year wonder, enfin une année exceptionnelle juste l'année dernière, il continue à être sur le même niveau. Ou est-ce que vous sentez un changement de philosophie peut-être par rapport au jeu avec justement la draft qui vient de passer? Est-ce que vous ne dites pas, tiens, ça va peut-être un peu changer, faire baisser ses stats? Vous en dites quoi?
Il va peut-être baisser un tout petit peu au niveau des stats, mais je pense qu'il restera dans le même niveau.
Après, mentionne aussi, parce qu'au final, peut-être pour les auditeurs, parce que vu que j'écoute beaucoup de podcasts et parfois qu'ils parlent de trucs et qu'on n'a pas l'info, DeAndre Swift,
Adjamal. Non, je voulais aborder les postes et du coup dire les arrivées en fonction de ça qui peuvent créer le casse-tête. Mais
justement, je vais pas faire du name dropping, quoi. Non, c'est pas pour le name dropping, mais c'est pour dire qu'ils ont perdu leurs deux running back numéro 1 et que là, en fait, Jared Goff, on lui donne un peu les clés avec un rookie running back.
Bah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Bah non, je suis pas d'accord avec toi. Ils lui donnent pas les clés du camion parce que justement, ils ont drafté comme dans les années 90 en prenant un running back au premier tour et ils ont fait venir David Montgomery qui est pas. Tu vois. Bah, donc je me dis que ils ont remplacé peut-être avec deux joueurs qui ont la philosophie du jeu. C'est pour ça que je parle de revoir la philosophie peut-être du jeu. Pour toi, Atin, c'est quoi?
Pour moi, pour moi, c'est continu et je me dis peut-être qu'ils vont encore un peu plus jouer que sur Goff. J'ai l'impression, enfin, il y a les stats sous les yeux, troisième au total en fait.
Peut-être plus à la passe.
Passe, oui. Bah oui, bah, final, bah, donc on fait confiance à Goff pour la passe.
Oui, non, mais c'est pas ça. C'est donc, je veux dire, augmenter le niveau, le volume de passe, quoi, en gros.
En fait, quand tu regardes un petit peu les arrivées, quand tu regardes les départs, je trouve qu'en fait, tu perds Swift, tu perds Williams. Williams, il était Red Zone, c'est clairement. Il a eu tout l'été des Red Zone.
Ça va faire Montgomery, sûrement.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. À mon avis, ça va être Montgomery qui va reprendre ce rôle-là. Parce qu'on sait que lui, c'est un buffle. Et il va, en Red Zone, je pense que ça va être lui qui va être utilisé. Tu perds Swift. On sait très bien qu'il y a eu des soucis avec lui. Il a été envoyé aux Eagles. Tu récupères Gibbs, rookie. Voilà, qui a un profil intéressant. Ils sont partis chercher peut-être très haut, certes, mais ça veut dire que voilà, c'est lui qui va avoir les clés pour le jeu sur le terrain, etc. Maintenant, en receveur, tu as Sam Brown qui est là, qui a déjà prouvé ce qu'il faisait. Tu as le retour de Jameson Williams, alors qu'il est suspendu un certain temps parce que il est dans les problèmes de Paris, etc. Derrière, tu as Josh Reynolds et tu as Marvin Jones qui est revenu. Marvin Jones, c'est peut-être un vieux de la vieille, mais l'an dernier, il était encore relativement bon au niveau des stats avec les Jaguars. Donc, je pense que cette équipe-là, elle est bien construite. En plus, tu ramènes Laporta à la place d'Hawkinson. Laporta, il a des très bonnes mains. Je pense que, alors, il ne va pas produire autant qu'Hawkinson, ça c'est clair, mais c'est quelqu'un qui va être vraiment intéressant aussi en poste de tight end. Je pense que cette équipe-là, elle est très très bien construite.
Elle est forte.
Et ça va être une. Je pense qu'il y a une grosse attente autour de cette équipe. Alors ça peut faire un gros pchit, hein, ça peut être un gros pétard mouillé, mais je pense que ça va être intéressant de les voir au niveau fantasy. Il y a moyen d'avoir des très beaux scores dans cette équipe-là.
Pour rappel, en fait, ils ont vu venir donc plusieurs receveurs et un peu organiser tout ça. Hein. Donc Jameson Williams est suspendu théoriquement 6 matchs. Pour avoir, alors, parié, parce qu'on n'a pas le droit de parier quand on est en NFL, et notamment aussi par rapport à, comme ils disent, quand on est dans l'enceinte, même quand tu es à l'hôtel avec les joueurs, tu es dans l'enceinte de l'équipe. C'est considéré comme enceinte de l'équipe, donc tu n'as pas le droit de parier, etc. Bref. Donc, du coup, comme il est absent 6 matchs, on a fait venir Marvin Jones qui connaît la maison, parce que c'est un ancien des Detroit Lions, et Josh Reynolds, qui est un joueur, j'ai regardé ses statistiques, j'étais tombé un peu sur les fesses. C'est fou quand même ce qu'il produit. Chaque fois, il passe sous les radars. Lui, c'est vraiment monsieur Nobody.
Dans les grosses ligues deep, franchement, c'est
un joueur. Josh Reynolds, en termes de rotation avec les bye week, etc., en fait, il te met 9-10 points l'année dernière sans problème. Bon, bref. Pour moi, en fait, ils ont fait du remplacement avec réorganisant par rapport à la jeunesse. Hein, parce que, hein, et puis d'André Swift, après, bon, ça, il y a le phénomène d'André Swift. Je n'ai toujours pas trop compris pourquoi ça n'a pas matché, mais tant mieux pour lui, il va quand même chez les Eagles. Il y a pire comme équipe ou atterrir.
C'est sûr. C'est sûr. Non, après, je pense que c'est un mélange qui est intéressant entre rookie et expérience en même temps, et ça peut être explosif.
Comme donc, pour. Tu pars comme un vieux. Ouais, tu pars de vin. Un mélange de goût et de saveur.
Comme pour Justin Jefferson, on parle pas d'Amon-Ra St. Brown. Hein. Je pense ça serait enfoncer des portes ouvertes.
C'est ça.
Messieurs, nous allons changer. Nous allons passer dans la division de Monsieur Aptin et commencer par les Cleveland Browns.
Une équipe d'enculés, pardon. Alors oui, les Cleveland Browns.
Moi j'aime beaucoup cette équipe.
Non. Alors on ne va pas aborder, s'il vous plaît, le sujet de ce qui s'est passé avec Deshaun Watson. On va parler de cette année, la fantasy. Je pense que les histoires de masseuses, on a assez entendu. Donc, Deshaun Watson, pour vous, hype normal, hype, ou hype plutôt modéré, Deshaun Watson cette année?
Top 10.
Alors, c'est super simple, mais vas-y, toi, top 10. Là. C'est super simple. En gros, il va être entre ce qu'il a fait l'année dernière et ce qu'il va aller à Houston.
C'est en quoi, 2020, où il était quasiment MVP, c'est ça que tu veux dire?
Peut-être pas MVP, mais quand il faisait vraiment partie du tiers.
Non, mais en 2020, il a failli être MVP. Là, 2020, quoi, donc,
Non, ok. Bon, après, peut-être pas que 2020.
Okay.
On va dire, si tu prends 2-3 années où il faisait partie vraiment du tiers 1.
C'est quoi, c'est 230 points, 250 points, 250 points, tu penses?
Je peux pas dire. Ouais. Je peux pas dire, mais en tout cas, c'est sûr, certain que c'est pas le Watson qu'on a vu l'année dernière, mais ce sera pas celui du truc. Moi, je vois vraiment, surtout avec l'équipe qu'il a aujourd'hui, qui va pas forcément forcer sur les passes qu'il va faire, etc. Il n'y a pas vraiment de très très grosses deep threats, etc. Je pense que ce serait une équipe extrêmement intelligente qui va rester sur la course et faire de Deshaun Watson un peu, pas un game manager, mais vraiment quelqu'un qui va pas prendre forcément de risques parce que son équipe va être toujours bien positionnée.
Messieurs, question, Deshaun Watson, avant ou après Justin Fields?
Non, après.
En dynasty. Après,
okay. Dynastie, après.
En redraft, pareil.
En redraft, je vais le chercher par contre.
Tu vas le chercher? Ah non, mais avant ou après Fields?
Non, après.
Après, Fields, okay. il a vraiment le running pour lui aussi. Donc c'est vrai que c'est
okay.
intéressant. Mais Watson, je le vois haut quand même. Quand je dis top 10, je pense vraiment qu'il peut finir.
Ouais, non, mais attends, justement, c'est là où je veux en venir. Avant ou après Trevor Lawrence?
Avant.
Ah, qui a dit avant, pardon, si
j'ai pas. Moi j'ai dit avant. Moi je suis pas.
Okay.
Ouais, moi je suis pas partie du fan de okay, Trevor Lawrence. C'est un bon quarterback, mais en fantasy, on voit. Enfin,
moi je vois plutôt après. Bah, Lawrence, je vois en 5-6.
Ok.
Allez, mais qu'est-ce que t'as fumé avant de te connecter?
Non, tu veux. Non,
il ne fume pas, Lucho, il chie. Vrai. Voilà.
C'est fou.
Il crache dans la bassine comme un cow-boy. Attends, je l'ai vu faire.
Est-ce qu'il y a Marc dans le chat? Si il y a Marc dans le chat, moi je veux qu'il prenne des notes.
C'est un 49ers. Donc bon. Et tu fais bien de préciser, Aptin, tu vois, comme c'est la première fois que je remplace Marc, j'ai carrément oublié le chat.
Le chat.
Et que ça se trouve, il y a des gens qui ont peut-être élevé le niveau du débat dans lequel nous sommes. Donc voilà.
On dit que les graphes, ils sont très beaux, les slides. Slide 14.
Bon, et donc, alors, maintenant, draft Edition Watson par rapport à Anthony Richardson, avant ou après?
Avant.
Non, avant. C'est qui ce mec là?
Alors, ouais, Deshaun Watson.
Pas Marc dans le call, hein, non, peut.
Voilà. Donc, Deshaun Watson en ADP est 9 en dynastie et 9 en redraft. Il est exactement dans le range de Fields, Richardson et Lawrence. Voilà, c'est juste pour vous dire. Voilà, où on en est. Et globalement, il se fait drafter à ce niveau-là. Donc, pour vous dire comme quoi les gens, ils se posent la question.
Ah oui, non, mais bien sûr, après, c'est normal de se poser la question. Après, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il est très bien entouré. Il est très bien entouré. Chubb est toujours présent, tu as Amari Cooper. Ils ont ramené les Jamour, qui est un bon receveur.
Alors voilà, transition.
Qui a tout à trouver.
Aborde le corps des receveurs. Lucho, vas-y, aborde le corps des receveurs alors.
Amari Cooper, voilà, il a plus grand chose à prouver. On sait très bien le niveau qu'il a. Top 15, pour moi, top 15. Et les Jamour, il a approuvé cette année. Je sais que Marc il va faire la gueule, mais pour moi, il doit être revanchard et il doit prouver justement qu'il s'est fait un peu évincer des Jets. Et là, il doit refaire une très bonne année. Je pense que c'est possible avec Watson. People Jones, on sait très bien qu'en WR3, il est intéressant. Il a fait des bonnes stats l'an dernier. Et en plus, l'arrivée du petit rookie Tillman, qui peut être intéressant aussi dans les Ligues Deep, par exemple.
Oui, mais donc en gros, parce que là je veux bien tout ça, mais en gros, tu es en train de me dire, bon, il y a un receveur numéro 1, mais derrière, comment ça se passe?
Il est déjà mort, tu peux le. Franchement, moi, je vais le chercher. Je vais le chercher.
Non, parce que. Pour moi, ils sont tous pareils. Hein. Elijah Moore, People Jones, Tillman, c'est drafté au même moment. Hein.
Moore, pour moi, est tout dessus.
Donc, ok, tu suis la hype qu'on a vue dernièrement sur les réseaux sociaux, comme quoi la connexion, ça percute bien, et que pour toi, c'est le numéro 2 au-delà de People Jones Bon, et Tillman.
Je pense que oui.
Ok. D'accord. Upton.
Moi, je m'en fous un peu des receveurs. Je
pense que... non, mais... Moi, je m'en fous en fait.
Non, mais en fait, non, mais je suis globalement d'accord. Mais par contre, je pense qu'on parle peut-être. Enfin, ce qui est bien, hein, parce qu'au final, pour moi, parce que moi, je trouve que. Et ça va ravir Marc parce que je pense que depuis qu'on fait la fantasy, enfin qu'on joue en fantasy, tous les ans on se dit c'est l'année d'Njoku. Non, je te dis, non, tu dis, c'est l'année d'Njoku.
J'avais oublié.
Et là, c'est vraiment, je pense que c'est l'année d'Njoku.
Ben oui, mais ça va, c'était déjà son année dernière. Il a fait la meilleure performance dans sa carrière en termes de stats. Hein.
Mais ça sera encore au-dessus.
Mais... Là, vraiment, oui, non, mais je suis, Njoku, je... moi, je suis comme toi. Hein. Je me suis battu dans plusieurs ligues pour l'avoir. Et Njoku.
Après, ce qui est bien, c'est que. Tu fais un rewind un an 2022, ouais. 2021, je fais c'est l'année d'Njoku. Bah, Marc, je te dis que c'est l'année d'Njoku. Mais en tout cas.
Ça fait trois ans qu'on dit ça quand même.
Ouais, mais bah oui, mais au final, enfin, il y a des évolutions.
Au moins, ça évolue, il a performé. Hein.
Là, ça fait que d'évoluer et tout. Et là, t'as Deshaun Watson qui revient avec vraiment. Enfin, il a quand même beaucoup, beaucoup d'entraînement derrière lui. Et avec une super équipe. Hein. Franchement, l'effectif des Brands, c'est très, très, très costaud. Hein.
Ouais, oui. Mais justement, moi, je n'ai pas trop de crainte parce que Njoku, il est un peu tout seul. Et c'est vrai qu'en tant que tight end, c'est vrai que du coup, il a sa place à faire, comme TJ Hockenson, on va dire, chez les Vikings, en termes de tight end receveur et de se mettre en gros dans le corps des receveurs plutôt que le corps de tight end. Je parle les systèmes de jeu, hein, parce que le corps de Njoku, voilà, il est costaud. Non, moi, c'est juste pour terminer sur les Browns, c'est le poste de running back. Jerome Ford, comment ça se passe par rapport à Nick Chubb? Vous allez le chercher, vous n'allez pas le chercher? Est-ce que c'est comme on dit, le handcuff guy?
T'es obligé d'aller le chercher quand t'as un running, quand t'es dans une équipe de running qui passe beaucoup par la course, est un numéro 1 qui fait énormément de points. Il faut qu'à chaque fois que tu sois remplaçant sur une équipe, c'est juste impossible d'imaginer de ne pas avoir son remplaçant dans une équipe. Et surtout, la personne qui va drafter Chubb, obligée d'aller chercher le remplaçant si Chubb se blesse. Obligé.
Ah, Chubb, autre. La Ford, oui, là, c'est comme tu disais, c'est le backup à avoir comme Hunt l'an dernier. C'était, okay. C'est le mec à aller chercher.
Vous savez à quel range il est, Jerome Ford? Il est au range de Jeff Wilson, McKinnon, Hubbard et CH. Enfin, Clyde et le joueur de l'air. Donc, alors, si vous les allez chercher, faites attention de ne le payer pas trop cher en draft. Faut faire attention de où vous allez le prendre et à quel moment. Essayez de prendre au pire un backup ou autre. Mais Jerome Ford, moi, je. Évidemment qu'il y a les risques de la blessure avec Bradley Chubb. Avec Nick Chubb. Mais bon. Après, c'est vrai que comme en plus, c'est un running back pur, Nick Chubb. Donc, c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Mais on voit bien que le jeu est en train de s'orienter un peu différemment. Donc, ça va peut-être être un peu plus tranquille pour lui en termes de physique pour Nick Chubb. Quelque chose d'autre à ajouter pour les Browns, messieurs?
Non, je voulais juste rajouter que cette division, ça va être un enfer.
Oui, exactement. Oui. C'est pour ça que c'est une de mes divisions préférées, parce que j'adore depuis toujours cette division. Maintenant, nous allons tous nous taire et nous allons laisser la parole uniquement à Aptin, car on va aborder le sujet des Pittsburgh Steelers. Et moi, ouais. J'ai une question pour Aptin, et après je le laisserai parler. Aptin, les Steelers, cette année, c'est grand cru ou juste de la piquette?
Oh là, c'est du coca cherry. Ça veut dire que ça va bien, c'est que le goût sera bien, mais qu'au final, tu vas quand même finir au chiottes. Non, plus sérieusement, en termes de fantasy, je ne pense pas que ça va être une équipe intéressante. Parce qu'on a vu ce que ça donnait l'année dernière, on voyait un peu les grands noms se casser la gueule. Je pense notamment à Najee Harris, qui a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de capital l'année dernière, et Jontae Johnson. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'équipe va mieux, on va filer les rênes à Kenny Pickett, je pense que Pickett va faire une très bonne saison, je pense que Steelers va faire une très bonne saison, on va finir en positif, mais comme je l'ai dit, j'arrive pas à imaginer qu'on va marquer tout d'un coup 30 points par match, alors qu'on était en galère totale l'année dernière pour faire avancer la balle. Je pense que les Najee Harris, Jontae Johnson, Pickens, un peu tout le monde vont élever leur niveau de jeu, mais pas pour être vraiment, on va dire, des tueurs en termes de fantasy. La personne à targeter dans cette équipe, c'est clairement Dont'a Johnson, parce qu'on sait qu'en termes de route runner et peut-être, on va dire, safety net, c'est peut-être la meilleure option qu'il y a chez les Steelers. Najee Harris, j'ai vraiment du mal à me projeter, surtout que je vois que le remplaçant, qui est Jalen Warren, apportait vraiment quelque chose. Un peu quand on parle d'Ezekiel Elliott et Tony Pollard, visuellement, ça jouait un peu mieux. Et comme je le disais, enfin, Najee Harris a quand même perdu beaucoup de value. Je pense que les personnes qui essaient de le vendre aujourd'hui se disent « Ah, si je veux aller chercher, on va dire, un cook ou quelque chose, peut-être que ça peut se faire. » Mais il a perdu énormément de value. Et je ne suis pas sûr qu'au final, il puisse être un running back, enfin un running back 1 aujourd'hui en fantasy. Il y a beaucoup de noms. Le tight end, pour moi, fait partie des bons tight ends. Mais comme un peu le reste de l'équipe, on ne peut pas compter sur Pat Freiermuth d'être régulier toutes les semaines comme tous les autres. Peut-être à part Dont'a Johnson qui, est pour moi, sort un peu du lot. Et Kenny Pickett, toujours pas aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il va faire des bonnes deuils. En termes de match, je pense qu'il va être plus intelligent, qu'il sera meilleur. Mais pour moi, il ne sera pas startable toutes les semaines.
Alors moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, dans notre entourage, qui m'a dit que Pickett, c'était le Daniel Jones de l'an dernier.
Ça veut dire quoi en termes de…
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire quoi en termes de qualité, en termes d'upside, enfin de sleeper.
Ça veut dire que le joueur ça va être le joueur à prendre. Ouais.
Okay. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Non. En tout cas, en termes de fantasy, je ne suis pas sûr. Parce qu'au final, ce n'est pas quelqu'un qui court. C'est quelqu'un, en fait, on va quand même essayer de passer par la défense et par du running game. Et il ne va pas commencer à envoyer des bombes sur les gens. On a quand même un bon corps de receveur, mais Pickens, okay. Il n'est pas startable. Robinson, il n'est pas startable.
Je vais poser une question autrement. Tu fais une draft, tu vois des gros, les poids lourds, parce que tu as une stratégie. Tu prends peut-être un des gros receveurs, les gros RB d'abord, et tu ne prends pas de quarterback. Kenny Pickett, tu le prends pour être QB1? Non, définitivement pas. Toi, tu ne le recommandes pas.
Bah, ça prends... dépend. Non, mais ça dépend. C'est toujours ce qu'on va répondre. Ça dépend des noms qui est à côté. Mais moi, je ne peux pas donner les clés de mon équipe à Kenny Pickett en QB1. Impossible.
D'accord. OK. Kenny Pickett, en range, il est au niveau de Jared Goff, Geno Smith, Russell Wilson et Jordan Love.
Non. Vous pensez quoi ça? À part Jordan Love, il est en dessous des autres.
Il est avant Derek Carr. Il est avant Derek Carr.
Moi, ça ne me choque après, pas. Ouais.
Non, ça ne me choque pas non plus.
D'accord. Bah, il produit plus. Enfin, tu as plus de chances d'avoir une passe. Si je t'écoute, tu as plus de chances d'avoir une passe avec Derek Carr qu'avec Kenny Pickett.
Ouais, mais en termes de qualité d'effectif, on est au-dessus des Saints. Ouais. Je suis désolé.
Non, mais attends, je te parle de draft. Je prends un joueur, je draft mon quarterback.
Est-ce que tu draftes ton quarterback par rapport au corps de receveur qu'il a. Si tu mets Lucho et moi avec Derek Carr, c'est pas…
Ah oui, d'accord. Je parle même en potentiel. Quand même, tu
oui, en termes de potentiel, oui. Ouais, Pickett est largement au-dessus qu'un quart, mais après, enfin… Et puis okay. Même en général. Mais juste que,
pour moi, franchement, le joueur vraiment effectif dans cette équipe-là, tu l'as dit, Aptine, c'est Johnson. Johnson, je pense que tu lui rajoutes juste les TD l'an dernier avec les stats qu'il avait. Il va exploser.
Pickens par rapport à Dont'a Johnson?
Non.
Parce que globalement, ils sont à peu près au même niveau hein. En termes d'ADP.
C'est que de la hype, Pickens.
Ouais.
C'est que de la hype. C'est que de la hype.
C'est une réception là au OBJ une fois. Ouais. Et
regarde juste les stats de Dont'a l'an dernier. Tu lui rajoutes juste 4 ou 5 TD.
Ah oui, c'est d'accord. Justement, c'est pour ça c'est ce que dit très justement
Apple. Son ADP, elle explose.
Moi, je suis entièrement d'accord. Dont'a Johnson, c'est absolument… En plus, il n'est pas cher. Souvent, ouais. Les gens, ils l'oublient. Il n'est pas cher et tu l'as, en fait, deux ou trois tours plus tard que ce qu'on devrait le prendre, en théorie, par rapport à sa compétence. Mais non, mais c'est juste pour savoir par rapport à Pickens, que c'est juste de la hype.
C'est le joueur que tu voudrais bien avoir dans ton équipe, tu vois, il est stylé, enfin même par exemple comment il joue sur le terrain, il bully un peu les autres joueurs, etc. Mais en termes de régularité, Johnson, c'est un peu une assurance tout risque, tu vois. Il va faire surtout en PPR, il va faire minimum 4-5 réceptions, il a quand même un plancher très haut, et tu rajoutes les TD qu'il est censé avoir, et ça va avec l'évolution de Pickett, et même de l'équipe
offensive. C'est Pickett qui les a eu les TD, hein. L'année dernière. C'est lui qui les prenait. Ou Jalen Warren, d'ailleurs.
Jalen Warren
servait en passe.
Jalen Warren. Et en fait, non, je pense que de toute façon, toute offense va mieux marcher parce qu'on ne peut pas faire pire que l'année dernière. Et surtout, tu vois, enfin, des signatures super intéressantes comme Allen Robinson, tu vois, je pense que
alors, il sera justement, beaucoup, j'allais dire, on zappe Allen Robinson dans les sujets. Dans le
oui,
débat,
on zappe.
S'il vous plaît.
On zappe, mais.
On va commencer chaque année.
C'est oui, un mais peu... pour sa carrière, c'est un plus. Par exemple, en slot X, il sera beaucoup plus intéressant.
Tu veux dire que pour une fois, il aura un vrai entraîneur, c'est ça que tu veux dire?
En plus.
Non, même pas.
Non, d'accord.
Parce qu'au final, il y a quand même des bons passages okay.
Bon, Pat Freiermuth, quand même, qui a juste 24 ans, parce qu'on a l'impression qu'il a depuis super longtemps, il a juste 24 ans. Lui, il est tight end globalement entre 8 et 10, hein, de ce que vous voyez, et en ADP, vraiment 7 et 8 en termes de niveau. Donc, c'est vraiment un top tight end qui n'est pas trop cher à prendre, que vous pouvez prendre au tour 3, qui est assez sympa à recommander. Nous avons fait le tour des Pittsburgh Steelers. Nous allons passer aux Baltimore Ravens. Équipe préférée de ceux qui aiment être sur le canapé dans un coin ou d'avoir le canapé dans le coin. Je ne sais pas comment il faut le dire. Et donc, avec à sa tête Lamar Jackson, ancien VIP.
VIP.
Non, n'importe quoi, pas VIP. MVP. C'est... De la NFL. Alors, on a abordé la semaine dernière sur les previews des divisions Ouest en disant que Denver Broncos, le plus gros transfert, c'était Sean Payton. Hein, ça. Cette année, est-ce que vous pensez, moi je le pense en tout cas, que le plus gros transfert, c'est Todd Monken, le coordinateur offensif qui est arrivé de Georgia Bulldogs en l'occurrence.
En fait, il y a énormément d'attentes sur son arrivée. Donc après, est-ce que c'est ce qu'il faut aux Ravens pour aller plus loin? Peut-être, on le verra. Mais c'est clairement l'arrivée qui est la plus attendue, encore plus que celle d'OBJ.
Mais OBJ, il ne compte même pas. Que...
Non, c'est sûr, on compte. Attends, je ne suis pas d'accord.
Écoute-moi.
Écoute-moi, avant de t'emballer. Si on fait venir OBJ, si on fait venir, en draftant, Zay Flowers, c'est pas par hasard, justement. C'est parce que Ted Monken est arrivé. C'est-à-dire que là, on augmente le corps de receveur. Je crois qu'ils n'ont jamais eu autant de, entre guillemets, de receveurs en même temps, hein, parce qu'ils soit ils étaient plus blessés ou quoi que ce soit, avec Rashad Bateman, parce qu'il faut oublier que théoriquement, le receveur numéro un des Ravens, c'est Rashad Bateman. Le problème, c'est que tous ces gens, à part Zay Flowers, parce qu'il vient d'être drafté, encore faut-il qu'ils soient là, sur le terrain. Rashad Bateman fait que 7 ou 8 matchs l'année dernière. Donc, avec Lamar Jackson, qui en a raté. J.K. Dobbins, qui en a raté. Donc, tout ça font que il faut que d'abord que tous ces joueurs se connaissent et que Todd Monken est réputé pour être un coordinateur offensif, on va dire assez offensif, assez passing friendly. Il a été dans le même Plymouth State, LSU, quoi que ce soit, toujours dans les postes, en plus sur les corps des receveurs en tant que coach receveur. Donc, c'est pour ça que du coup, je me dis, est-ce que vous allez voir un volume de passes plus important de Lamar Jackson, moins de courses et des scores plus costauds en termes de
pour les receveurs. Il n'a pas dit lui-même qu'il devait passer plus de 6 milliards cette année à la passe.
Oui. C'est un gros. Faut oser le dire.
Voilà.
Ça s'appelle
il a annoncé la couleur. Non, après, non, mais... je pense que tu as très bien souligné. En fait, c'est une équipe qui a eu tellement de blessures que tous ces mecs-là n'ont quasiment jamais joué ensemble. Ils ont très peu joué ensemble. Maintenant, il y a une énorme attente au niveau des receveurs, clairement. Tu fais venir OBJ, c'est pas pour rien, comme tu le disais. Pour moi, le receveur numéro 1, c'est pas Bateman. Hein,
non, je parle de receveur pur. Ah, je parlais de receveur, je parlais d'OBJ. Maintenant, okay. Évidemment, que la cible numéro 1, c'est Mark Andrews, évidemment. Et à tenir compte aussi, même le tight end numéro 2, Isaiah Likely, qui est comme aussi un peu Dulcic, ce sont des tight ends très véloces, très versatiles, non, très polyvalents, versatiles, c'est vrai, et très rapides. Donc, je le compte aussi. Donc, dans les formations, les différentes formations offense, à tenir compte aussi de Likely. Mais donc, Mark Andrews, évidemment.
Est-ce qu'ils vont rester en bonne santé? Ça va être le gros problème des Ravens cette année. Parce que Dobbins, oui, il peut être bon s'il joue. Derrière, tu as Edwards, c'est pas une assurance tout risque non plus. Ils ont fait venir Melville Gordon, à mon avis, c'est pas pour rien. Après, voilà, c'est Bateman
Est-ce
blessé à la fin de la
que
saison.
Aptine, est-ce que tu penses que Dobbins va recevoir des passes?
Oui, mais très peu. Moi, je vois juste Lamar Jackson de vraiment Lamar Jackson et bien sûr Marc-Andrews. Mais Lamar Jackson, pour moi, je pense qu'il va vraiment poster des nombres, enfin des chiffres qu'il avait fait comme à son année MVP. J'ai beaucoup
Ouais.
d'attentes pour lui. Je crois qu'il est QB quoi 5, 6, un truc comme ça. Je le prends avant, clairement. Par contre, je comprends vraiment pas qu'on
On a des
commence
pays, oui, on
OBJ.
a des pays, il est 4 ou 6. Ça dépend.
Mais.
Par contre, il est, voilà.
Mais
Là,
attends, tu mets qui devant lui?
mais Bateman, il est de
Alors.
sûr, il finit devant Beckham. Beckham, ça fait c'est quand la dernière bonne
Non,
saison qu'il a
je
fait?
te parle de Lamar. Lamar, tu le mets en 4 ou
Ah, mais
5. Tu
alors,
mets qui
non,
derrière lui?
6 et 4, 6 en dynastie, 4 en redraft. En redraft,
En
c'est
redraft
pas
4, c'est
bon.
bien, c'est parfait. C'est
C'est
ce que je disais,
normal, c'est
ouais.
logique, hein, tu as tous les poids lourds devant, c'est-à-dire Hurts, enfin les poids lourds redraft, hein, je parle. Hurts, Josh Allen et Patrick Mahomes.
Donc
Donc
tu mets.
derrière,
Attends,
c'est
tu mets
4.
Burrow derrière et tu mets Herbert derrière.
En, en
Mais
redraft,
bien sûr que oui.
oui.
Ah ouais. Mais
En
bien sûr
redraft,
que oui.
oui. Maintenant,
Ah ouais.
en dynastie, si tu es à 6, là par contre, tu as Burrow devant et tu dois avoir peut-être Justin Herbert aux alours de Justin Herbert, je pense, autour
Moi,
de
pour moi,
Lamar
Berber,
Jackson.
il reste comme derrière, mais non.
Alors, ouais, j'ai cru que tu allais dire il est fini.
Non, non, non,
Non,
du
parce que
tout. Ah non,
là,
non,
il
moi
vient
j'ai
de
beaucoup
signer un gros
de.
contrat, donc non, il n'est pas fini, mais.
Non, 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 non,
Ok. Donc pour toi, donc je reviens à la réponse, c'était ça quand même la question. C'est J.K. Dobbins, donc qui a un gabarit pour pas être normalement un gros coureur, mais qui est capable de prendre la balle en sortie. Donc toi, non, tu ne dis pas le volume de passe, il va augmenter sur Gus Edwards. Ok.
non, non, non. Bon. Je pense
Bah,
pas qu'il y
c'est
aura.
bien.
Enfin. Si tu en as vu juste les touchdowns qui vont être faits sur les 1-2 yards, c'est peut-être pour ça qu'ils ont ramené un mec comme Melvin Gordon, peut-être pour finir les actions. Mais pour moi, enfin, un peu comme tous les ans, j'ai l'impression que tu ne peux pas compter sur le running back des Ravens et surtout
C'est
pas
ce que
quand
tu veux
là,
dire.
c'est Jackson, il va vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais
Je
vraiment
suis
beaucoup, beaucoup
complètement
de choses,
d'accord
tu
avec toi. Moi, tu vois, le Dobbins, moi, je l'esquive, mais dès que je peux, je l'esquive, quoi.
Non, mais ça cause la
J'arrive pas.
blessure, ça.
Non, c'est même pas
Bah ouais,
forcément
bah
à cause de la
c'est.
blessure. C'est même pas forcément ça. C'est que tu sais que tu as Lamar qui est en red zone, qui peut très bien
Non, non,
aller
non, mais
courir.
justement,
Moi,
si c'est là où je ne suis
j'ai
pas
du mal
d'accord
avec
avec
lui.
vous, c'est que. Non, non, mais attendez, s'il fait venir Tom Monken pour avoir un jeu de passe justement plus diversifié et plus développé, parce qu'il faut dire que c'était morne-plaine quand même l'année dernière, c'est justement pour plus avoir Lamar Jackson qui part. Alors, oui, évidemment que Lamar Jackson, de toute façon,
Il le
tu ne peux
fera.
pas. Faut pas tu, non, mais bien sûr qu'il le fera, parce que c'est. Il ne faut pas enlever une force à quelqu'un qui est fort. Tu vois, c'est pas possible. Il est fort pour ça. Il faut l'utiliser. Maintenant, il faut l'utiliser de manière intelligente et avec parcimonie. Parce qu'il a quand même derrière donc, J.K. Dobbins. Il a aussi Gus Edwards. Et Justice Hill. Je veux dire, théoriquement, il y a un peu de volume en tant que running back pour jouer tous les différents downs en tant que running back. Donc, c'est pour ça. Et que je me dis justement, le but, et c'est pour ça qu'il parle de 6 milliards à la passe, le but c'est de réorganiser un peu le jeu à la passe pour que. Et c'est là où j'allais poser une question du coup, c'est est-ce que je me dis, est-ce que le volume, est-ce que, enfin, c'est une question, pas une affirmation, c'est pas péremptoire, c'est une question, est-ce que vous pensez que le volume de Marc-Andrews va diminuer?
Moi, je pense peut-être un peu. Peut-être pas un truc significatif, mais déjà, il n'augmentera pas, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup trop de personnes. Ça va beaucoup trop être diversifié. Et non, en fait, moi, je vois même sortir sur des trucs de red zone pour mettre Isaiah Likely sur le terrain.
Ok.
Et surtout que c'est l'équipe qui va gagner. Donc, à partir d'un moment, tu vas pas faire surjouer tes meilleurs joueurs quand tu gagnes de 20 points. Et ça va être le cas. Les Ravens, comme les Browns, c'est une équipe extrêmement forte qui va rapidement mener au score. Donc, à partir des moments, enfin, tu reposes tes cadres un peu, quoi. Comme on l'avait avec Kelce, hein. Kelce, ça fait 2-3 saisons, il sort beaucoup. Hein. Même s'il fait beaucoup de stats sur le terrain, il y est de moins en moins.
Et pourtant, les chiffres sont toujours
Les chiffres sont toujours là.
là. Ouais, donc, comme quoi,
Oui, parce
il
que
est
tu
un
as Mahomes.
peu.
Et lui, il a Jackson. C'est
Ouais.
déjà.
Oui, non,
Ouais.
mais, non,
Ça
mais
joue.
d'accord, mais non, mais je veux dire par là, c'est que comme quoi, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, toi, les autres corps de receveurs, enfin les autres receveurs, donc corps de Kansas City, tu te tirais une balle parce que justement, en gros, Kelce, même si Alors, je ne pourrais pas dire, je n'ai pas les stats en termes de snap ou quoi que ce soit, mais si je t'écoute, en tout cas, il joue moins de snap, mais en attendant, il produit toujours pareil. C'est fort. C'est très fort.
C'est fort, c'est parce que c'est Kansas. C'est pour moi, là, c'est vraiment un peu c'est l'exception, le coaching, le QB. Et là, au final, on vient avec un tout nouveau coaching. Le QB, ça n'a jamais été un grand passeur. Hein. Enfin, on va pas enfoncer des portes ouvertes, comme tu dis, non. Il veut faire 6 milliards. Moi, j'ai envie de faire 2 milliards à la course et je ne suis pas en NFL. Donc, on peut vouloir plein de choses. Mais Odell, je vous ai écouté, je n'ai rien dit, mais Odell n'a jamais fait une bonne saison. Quoi. Jamais.
Je n'ai pas dit qu'il faisait une bonne saison. J'ai dit que s'il le faisait venir, c'est justement la philosophie du jeu vers la passe. Ce n'est pas par hasard.
On est d'accord, mais dans ce cas-là, on parle juste de
pas blessé, il aurait pu être MVP du Super Bowl. Hein.
Non, mais d'accord. Mais bon, on parle de fantasy, tu le draftes pas, tu t'attends pas.
Ah non, mais évidemment.
Même en receveur 2, je pense que je le drafte pas.
Ah non, mais attends, il est, je crois, 60, ouais. 65, un truc comme ça, Odell Beckham. Receveur 60, hein, 50-60. Hein.
Donc, non. WR3.
Ah, c'est histoire de. Pour certains d'ailleurs, quand ils le voient dans les différents drafts que je fais. Ils le prennent pour dire « j'ai pris au budget ». Je l'avais jamais eu avant, j'ai pris au budget.
Ouais, sauf que moi, j'ai fait ça il y a 3 ans et je m'en mords les doigts parce que maintenant, j'arrive plus à le refourguer. Si, là, ça va, j'ai réussi.
Non, mais tu n'as pas besoin de le refourguer. Tu le mets à la poubelle tout court. Voilà, tu dégages. Tu n'obtiendras rien.
C'est intéressant de l'avoir.
Même la renégociation de ce contrat de Marc avec son sneaker, s'il ne te le paiera pas au budget avec son sneaker, c'est mort. Hein. C'est pas la peine. Bon, allez, nous terminons par la dernière équipe.
Oh, l'équipe des grands connards.
Voilà.
Par où commencer ? J'ai l'impression qu'on peut faire un épisode entier sur eux.
Ah, sur les Bengals.
Les Bengals, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop casse-tête. Hein,
drafter tout le monde. Merci, bonne journée.
C'est un peu ça. C'est un peu ça parce que... Alors déjà, on peut déjà tout de suite dire la chose suivante, c'est qu'on peut drafter Joe Mixon.
Oui.
Voilà. Et que du coup, on peut un peu moins drafter Chase Brown, donc le rookie qui a été drafté.
Il faut le prendre.
Alors, je sais en connaissance de cause, c'est que quand on fait des dynasties, on fait des drafts qui sont assez tôt dans l'année, un peu derrière la draft, et que du coup, on prend Chase Brown en pensant que Joe Mixon n'allait pas revenir. Et là, maintenant, on se dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai peut-être payé un peu cher pour avoir Chase Brown. Donc, le running back remplaçant de Joe Mixon. Bon, Joe Mixon, il va, faire économiser à peu près 4,5 millions de dollars par an à sa franchise pour pouvoir rester aux Bengals, donc dans un prétendant au titre, pour pouvoir rester, titulaire. Joe Mixon, vous faites attention quand même de ne pas le drafter trop, c'est ça ? Quand même ? Faites attention. Vous êtes à quel niveau vous pensez le prendre ?
Moi, je pense que
maintenant qu'il est au Bengals. Maintenant qu'il est au Bengals. Des fois qu'il est vraiment Bengals.
Son ADP, il est... je pense que son ADP est bon. Il est ni trop haut, ni trop bas.
C'est quoi ce normand ?
Non, franchement, c'est... pour moi, je vais le chercher.
C'est ni trop chaud, ni trop froid.
C'est ça. Non, je vais le chercher.
Alors, ouais, non, mais d'accord. Mais à l'heure actuelle, son ADP est de 23. Vous allez plus haut ? Vous trouvez que 23, c'est un peu trop bas ?
Pour moi, c'est trop bas.
Trop bas.
Ok, trop bas. 14 en redraft, trop bas ?
Ça se tient.
Je prends.
Ok. Donc, mid-range en redraft et trop bas. Il a 27 ans. Maintenant, ça devient un peu compliqué pour les running backs. Donc, bon, juste ça.
Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir Chase Brown. Tu vois, c'est, y a eu le départ de Perrine qui a quand même fait des très bons scores l'an dernier. Et là, le fait d'avoir Chase Brown en backup, c'est quelqu'un à voir. C'est quelqu'un à voir parce qu'il il va produire, parce qu'il va courir aussi en plus de Mixon.
Ok.
Ouais, moi, je m'attends à une grosse saison de Joe Mixon. Je pense qu'ils vont vraiment le fumer jusqu'à le dernier yard qu'il peut faire et qu'il sera plus dans l'effectif l'année prochaine. Surtout que c'est une équipe maintenant très intelligente en termes de coaching, de structuration. Et je ne pense pas qu'il va y avoir des éléments un peu pas négatifs, tu vois. Mais
ils vont continuer à l'utiliser, tu veux dire, parce qu'il est quand même running back numéro 10.
Cette année. Là, en redraft, moi, je le prends parce que justement, ils vont le faire courir jusqu'à la
Non, mais attends, Il était running back numéro 10 quand même. Il était RB10 hein, sur l'année dernière. Hein,
d'accord.
Avec le corps de receveur qu'ils ont.
D'accord. Je te coupe, donc, les gars. Il y a une vidéo qui vient de sortir. Excuse-moi, Alex, hein, je te coupe. Il y a une vidéo qui vient de sortir. Burrow vient de se blesser à l'entraînement.
Alors, on ne drafte pas.
Alors, on le draft en.
c'est sérieux comme information, non, qui a dit ça?
C'est Rapoport qui vient de. Ou Schefter qui vient de le tweeter.
Ah, mais il s'est blessé, il s'est cassé un ongle ou bref.
Ouais, il sort en boitant.
Ah, il sort en boitant.
Ouais, c'est Schefter qui vient de le. Et Rapoport, ouais, qui vient de.
Ouais, c'est pas Aptin qui va le reboîter en tout cas.
Non, si, attends, moi j'aime bien taper les équipes quand elles sont meilleures de leur niveau. Mais bon, attends, on va rester sur le fait qu'il
oui,
est
oui.
fille et que oui, voilà.
Sûrement, j'allais dire, donc, du coup, Joe Mixon, donc vous, pour vous, donc, tu dis qu'il va l'utiliser jusqu'à la moelle, plus pour oui. pouvoir profiter sa coupe de salaire pour le rentabiliser au maximum. Parce que ouais. c'est un peu ça, la NFL est juste infernale avec les running backs au point de les utiliser oui. jusqu'à la moelle. Ok, d'accord.
C'est ce que je dis.
Très bien. Le corps des receveurs, vous avez des réflexions à faire sur ce magnifique corps de receveurs?
Bah, le meilleur corps de receveurs, mais pour moi, je pense que T. Higgins, là, il est peut-être un peu trop haut de ce que j'avais vu en draft, parce qu'il sort vraiment d'une saison, enfin, tu vois, de dingue, tu vois. Et je pense peut-être qu'ils vont être un peu plus équilibrés, surtout qu'ils ont pris Irv Smith. Et moi, ça fait partie des noms que tu as envie de voir performer parce que tu sais qu'il est bon, mais qu'il a toujours été blessé.
Alors voilà, bah
et là il est vraiment dans, une, enfin, dans un
pour
contexte.
Moi, le sujet que je voulais aborder aussi, c'était le tight end, Irv Smith. Bon, tu disais qu'il a été blessé, en effet, aux Vikings, il a été souvent blessé, mais quand il était sur le terrain, il performait très bien. Donc pour toi, c'est une valeur sûre. À quel niveau tu prendrais un Irv Smith?
Si non, c'est une valeur sûre s'il ne se blesse pas, mais vu son passif de blessure.
Non, je parle en termes de potentiel de compétences.
Ah oui, bien
sûr. Ouais, okay.
Ah bah surtout dans cette équipe et dans ce schéma, je pense vraiment qu'il peut exploser. Maintenant, tu es obligé de prendre en compte le facteur blessure. Et en fait, pour moi, ça reste un. Enfin, moi, je ne vais pas le chercher peut-être dans les 12 premiers. J'ai peut-être 12 TN qui vont venir avant ce mec-là. Quoi.
Lucho?
Moi, je suis d'accord avec Aptin. Non, vers la 15e position.
Donc pour vous le prenez en tight end titulaire?
Non.
Non.
Ah d'accord, en tight end remplaçant.
Ouais, en remplaçant.
Okay.
Avec beaucoup, beaucoup d'upside.
Avec un gros upside, on est d'accord.
Ouais.
Ok. Les Bengals, c'est 3 tight end en 3 ans. Ils n'ont jamais été stables, jamais foutu capable d'être stable sur ce poste-là. Et alors, faut pas porter la poisse.
Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin?
Des Panthers, Eden Hurst par exemple, qui est quand même pour moi tight end bien compétent. Il n'a pas vraiment performé l'année dernière.
Parce qu'ils en ont pas eu besoin.
Mais justement, c'est ça la question. C'est jusqu'où ils ont besoin.
T'es obligé d'avoir un tight end, ça n'existe
parce
pas.
Que,
tu vois.
Vu le gabarit, par exemple, je prends le gabarit de Tyler Boyd. On va dire quand même que sur la balance, il prend quelques kilos par rapport à d'autres, tu vois, je veux dire. Donc, il rend quelques kilos par rapport à d'autres. Donc, ils ont un tel corps de receveurs, plus des running backs. Alors, il y avait Sam Perrine l'année dernière, qui était capable en plus de sortir en backfield et prendre quelques ballons aussi. Donc, du coup, je me dis, le tight end, est-ce qu'il sait le faire? Est-ce que c'est dans l'optique du coach de la gestion du tight end?
Non, après, c'est nécessaire, parce que comme tu le disais, c'est nécessaire. Maintenant, d'un point de vue fantasy, est-ce que c'est intéressant d'avoir le tight end des
Non, mais ça reste quand même leur boulot d'apporter, on va dire, des nouveaux schémas. Les mecs, ils sont pas. Il a pas dit, ah ouais, bah non, il a une touche sur sa manette. Non, justement, en fait, je pense qu'en le prenant, non, lui, ils se disent, on va avoir des plans en plus.
C'est une question. Okay.
Boulot d'avoir... Moi, je suis persuadé que s'il ne se blesse pas, il fera partie du schéma et qu'il aura beaucoup de targets.
Eh bien, le coach est d'accord avec toi parce qu'il est très hypé par son nouveau tight end.
Bah, il ne dira il pas. Oh là là.
Non, mais j'ai vu des vidéos.
Et les mecs, Joe Mixon, il va avoir beaucoup de travail.
L'intégration de. Non, mais il y en a qui ne s'intègrent pas forcément très vite en termes d'équipe. Il y a des joueurs qui ont du mal. Irv Smith a l'air de très bien se passer. Donc, après, on verra. Messieurs, nous avons terminé cette preview des divisions Nord. Est-ce que oui, parce que si je continue, le patron il va m'engueuler. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que nous avons abordé?
Brock Purdy est revenu à l'entraînement et.
Non, et mais ça. Lucho, si tu veux, on fera le tour des news, on fera une émission ensemble, il n'y a pas de problème. Là, c'était un gars de preview, mais. Oui, mais en même temps, tu as raison, je réinsiste. Pour toutes les news, toutes les informations de votre équipe préférée, n'hésitez pas. La page Twitter, @fantasyballersf. Lucho, si on veut te suivre sur Twitter, c'est quoi?
Il y a l'arrobas qui est.
Oui, mais il y a des auditeurs, monsieur.
NLN2607.
Répète, du coup.
NLN2607.
C'est bien, monsieur. Monsieur Aptin, s'il vous plaît, votre compte Twitter.
Les modos d'Anière. Je ne sais plus c'est quoi mon Twitter. Je crois que c'est AMAGGI. Ça n'a pas changé.
Ok, c'est exactement ça.
King James. Voilà.
Nous allons revenir donc très vite. Pour les nouvelles previews, donc de l'Est et du Sud. Théoriquement, ça serait la semaine prochaine, mais c'est pas moi qui décide. En attendant, messieurs, merci d'avoir fait cette émission avec moi.
Merci.
Merci à vous.
Et à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et
tu as été un très bon MC, Alexandre.
C'est vrai, je l'ai précisé. Très bonne première. Mieux que Marc.
Non, ça n'existe pas. Désolé les gars,
mais... non.
Bon, Marc, c'est mon amoureux, j'ai commencé avec lui.
Il s'est paxé, n'oublions pas qu'il s'est paxé avec lui. À très bientôt, messieurs.
Allez, ciao. Bonne soirée, ciao les gars.
Ciao.